Gloire à Dieu. Comme vous avez pu le voir ce matin, vous avez un nouvel hebdo, je crois que vous l'avez remarqué, avec une nouvelle thématique, la nouvelle thématique pour l'année 2010-2011, prêt pour plus, pour ceux qui n'étaient pas présents dimanche dernier. J'ai pris le temps d'apporter ce message par rapport à cette nouvelle thématique. On est vraiment, à l'Église abondante, on est prêt pour plus. Et j'ose espérer et j'ose croire que vous aussi, vous êtes prêts pour plus. Et ce matin, on va continuer dans cette thématique-là, et c'est un message qui me tient particulièrement à cœur, qui est vraiment, qui bouille dans mon cœur depuis quelques temps déjà. J'aimerais simplement vous le partager dans les prochaines minutes. Une question qui me vient à l'esprit lorsque je vois le titre « Prêt pour plus », je me dis, est-ce qu'il y a de la place pour plus? J'entends un... Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce qu'il y a toujours de la place pour plus? Toujours de la place pour plus? OK. Toi, tu n'es pas rendu encore. Même l'apôtre Paul n'était pas rendu non plus. Vous vous rappelez quand Jésus a déclaré « Tout est accompli ». Moi, la grande question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que de ce côté-ci de la vie, je vais avoir l'opportunité de tout comprendre ce que ça voulait dire, tout ce que ça englobait, ce « Tout est accompli ». Mais une chose est certaine, c'est que ce « tout est accompli » que Jésus s'est écrit à la croix, ça nous concernait nous. Il nous a acquis quelque chose à la croix et Jésus, à la fin de sa vie, a déclaré « tout est accompli ». Et ça nous concerne, ce « tout-là ». L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu ». Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin de connaître ce que Dieu nous a donné par sa grâce. L'Esprit Saint nous est donné afin qu'on puisse comprendre tout ce qui nous a été acquis à la croix de Golgotha. On est appelé à connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. En d'autres mots, frères et sœurs, nous avons un héritage spirituel. Et la question est de savoir dans quelle mesure on connaît le contenu de cet héritage spirituel-là. L'apôtre Paul va dire aux Romains, « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Et je me suis toujours dit, ça, j'ai l'impression que je ne comprendrai jamais la profondeur de cette déclaration-là. Être héritier de Dieu et co-héritier de Christ, assurément qu'il m'en manque des bouts. Mais une chose est certaine, pour répondre à la question, il y a de la place pour plus dans nos vies en cette année 2010-2011. Lorsque nous déclarons « nous sommes prêts pour plus, frères et sœurs », c'est à cet héritage spirituel-là qu'on doit faire référence et dire « tout ce que Christ m'a acquis à la croix, je désire me l'accaparer, le vivre, l'expérimenter. Je ne veux pas seulement que Christ soit mort pour rien sur la croix. Je ne veux pas seulement être sauvé de mes péchés, bien que c'est extraordinaire l'idée d'être sauvé de ses péchés. Mais il y avait beaucoup plus que ça d'inclus dans ce sacrifice à la croix. Cet héritage spirituel que Jésus nous a acquis à la croix, nous désirons en cette année 2010-2011, je suis un retour en arrière ici, on désire le découvrir, le connaître, on désire le saisir et l'expérimenter, on désire le vivre, on désire vraiment le ressentir même à l'intérieur de nous. Tout ce que Christ a acquis à la croix, on désire non seulement le découvrir, le saisir, le vivre, mais aussi le faire connaître par la suite à d'autres qui ont désespérément besoin de connaître cette vie abondante que Jésus a tant parlé. Plus de quoi ce matin? On est prêt pour plus de quoi? Je crois qu'un des éléments ou l'élément le plus précieux de notre héritage en Jésus, c'est vraiment ce qu'on a parlé il y a deux semaines en arrière, notre relation avec Dieu. On est prêt pour plus d'intimité avec Dieu. Et non pas nécessairement prêt pour plus d'œuvres. Je crois que toute personne qui est connectée vraiment avec Dieu va assurément être quelqu'un qui va agir, qui va être poussé à l'action. Mais je crois aussi qu'il y a dans ce monde une tendance à agir pour Dieu, à faire des choses pour Dieu, en s'attendant à ce que ça nous mette en relation avec Dieu. Mais l'un ne doit pas aller sans l'autre, mais l'un doit venir avant l'autre. L'intimité avec Dieu va toujours nous pousser vers l'action. Mais l'action ne nous poussera pas à vivre l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu doit précéder l'action. Notre intimité avec Dieu devrait être la source de toutes nos décisions, nos actions, ce qu'on fait dans la vie. Parce que c'est Jésus lui-même qui nous a enseigné ce principe-là. On peut lire dans les évangiles, particulièrement dans l'évangile de Jean, Jésus disait, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » En d'autres mots, Jésus dit, « Je suis connecté au Père, et ce que Dieu fait, ce que Dieu veut faire, moi, je fais juste l'accomplir. Je suis en relation avec mon Père, et mes actions sont le fruit de ma relation avec le Père. » Il va dire dans Jean 15, verset 5, il va s'adresser aux disciples, et à nous aussi en 2010, « Je suis le cep, dit Jésus, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Hier, j'ai eu l'occasion d'aller cueillir des pommes. C'était une journée extraordinaire pour aller cueillir des pommes. Et à un moment donné, j'étais étonné. On t'a recueilli des pommes, puis on en a cueilli de la lobo. Elle était grosse, incroyable. Puis là, l'homme qui nous a accueillis dans la section où on cueillait des pommes dit, « Faites juste lever la pomme et tournez même pas un quart de tour, puis elle va vous rester dans les mains, elle va pratiquement vous tomber dans les mains. » Et à un moment donné, on t'a arrêté de cueillir les pommes. Effectivement, c'était très facile, très simple. Puis à un moment donné, j'étais dans l'escabeau, et là, j'ai regardé une branche, et il y avait une petite branche d'à peine peut-être 5 pieds environ. Et là, j'ai regardé, il devait avoir au moins une vingtaine, à 20 à 25 pommes sur cette branche-là. Et j'étais tellement impressionné. Pour moi, je vois vraiment la beauté de Dieu dans la nature. Parce que si Dieu a créé ça, il doit tellement être extraordinaire, Dieu lui-même. Là je voyais ça, puis... Je me suis posé la question alors que je pensais à mon message, je me préparais, je dis, je ne sais pas jusqu'à quel point ces pommes-là ont forcé pour être là, tu sais. Du genre là, que les plus rouges, c'est celles qui ont vraiment mis beaucoup d'efforts pour grandir, pour amener la sève, là, tu sais, que la sève puisse monter, là, puis... On sait très bien qu'il n'y a aucun effort de la part des pommes. La seule chose qui est primordiale, c'est qu'ils restent attachés à la branche et au cep ou au pommier, et les pommes vont grandir. Et c'est la même chose que Jésus nous enseigne ici. Il dit, « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et qui, en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Est-ce qu'il est question ici d'effort? Non. Juste de rester en lui et on va porter du fruit tout seul. Comme ces pommes sur ce pommier qui étaient tellement majestueux de dire, « Wow, ça a l'air tout simple. » Mais parfois dans la vie chrétienne, on a tendance à vouloir faire des œuvres afin de pouvoir porter du fruit. Mais je crois que ça doit être inversé. On doit venir dans la présence de Dieu, et c'est le fait d'être dans la présence et de demeurer en Jésus qui fait en sorte qu'on porte beaucoup de fruits, parce que c'est la volonté du Seigneur qu'on puisse porter beaucoup de fruits en tant qu'enfant de Dieu. Ceci étant dit, j'aimerais partager deux éléments clés avec vous ce matin. On est dans une thématique « Prêt pour plus ». Et alors qu'on commence cette thématique-là et que ça va être la thématique pour toute l'année, il va y avoir divers sujets sous cette thématique-là, mais j'aimerais juste partager deux éléments clés très importants qui, en tout cas, sont très chers à mon cœur. Et que ces deux éléments clés qui ont le potentiel de changer votre vie chrétienne à partir d'aujourd'hui ou à changer votre vie à partir d'aujourd'hui si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus personnellement. Mais ces deux éléments clés que je vais vous partager doivent être considérés ensemble, car ils forment ensemble un équilibre. On va y aller avec le premier élément, et qui est très simple. Le premier élément que j'aimerais vous partager, c'est que Dieu nous aime et veut se révéler à nous personnellement. C'est très important de le croire, parce que si on vient à l'Église, vie abondante, dimanche après dimanche, mais on ne croit pas en un Dieu qui veut entrer en relation avec nous, mais on est condamné à vivre une vie religieuse pour le restant de nos jours. Et je ne crois pas que Jésus est venu sur la terre en tant que fils de Dieu pour qu'on vive simplement une vie religieuse et qu'on aille à l'Église. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, d'aller à l'Église, de vivre une vie religieuse, je ne trouve pas ça satisfaisant. Personnellement, je peux peut-être être le seul dans la salle, mais ce n'est pas grave. Je crois que Christ est mort pour plus que ça. Et je crois que Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre, mourir sur cette croix, il est venu nous confirmer qu'il y avait un Dieu, le seul Dieu créateur de l'univers qui nous aimait et qui voulait se révéler à nous. Et c'était l'ultime tentative de ce Dieu incroyable de venir connecter avec nous par l'incarnation de Jésus. Depuis le début des temps, Dieu a créé l'homme et la femme parce qu'il désirait entrer en relation avec eux. Comme j'ai partagé il y a deux semaines dans Jean 3,16, ça nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, les gens, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Jésus va dire, la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qui est au futur. La vie éternelle, ce n'est pas quand on meurt, qu'on s'en va au ciel. La vie éternelle, Jésus a expliqué dans Jean 17,3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. C'est ça la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Jésus est venu pour nous faire connaître le Père, le Dieu créateur. Même la Bible utilise l'expression suivante pour parler de Jésus. Ça dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, le Dieu esprit. Jésus s'est manifesté. Et si vous lisez les évangiles et vous voyez Jésus, moi, tous les gens qui lisent les évangiles et qui m'en parlent, qui me font un rapport de ce qu'ils ont lu, ils me disent tout le temps la même chose. Jésus est trippant. Sérieusement, là, Jésus est vraiment le fun. Jésus était quelqu'un qui aimait les gens. Jésus était quelqu'un qui tendait la main vers ceux qui étaient dans la misère. Jésus, alors qu'il y a des gens qui faisaient toutes sortes de magouilles pour essayer de coincer Jésus, était même au point de prendre une femme et de la prendre en flagrant délit d'adultère pour pouvoir coincer Jésus avec cette femme-là. Jésus va réussir à faire en sorte que cette femme-là soit libérée de la condamnation sur sa vie et il va juste pouvoir rentrer en relation avec cette jeune femme-là. Wow! Ça, si c'est l'image du Dieu invisible, ça doit tellement être extraordinaire de pouvoir connaître ce Dieu invisible-là. Parce que Jésus, moi, me donne le goût de connaître Dieu de façon incroyable. Jésus aimait les gens. Jésus délivrait. Jésus guérissait. Jésus prenait soin. Jésus enseignait ses disciples. Ça nous dit que dans le lieu secret, il expliquait tout à ses disciples. Pardon. Donc, Dieu nous aime et veut se révéler à nous personnellement. C'est important de comprendre ça. Et pour bien équilibrer ce message, il est vraiment important de comprendre cet élément-là, aussi simple qu'il peut paraître pour certains d'entre vous, et pour d'autres, c'est une découverte où vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que c'est vraiment la vérité que Dieu veut se manifester à moi personnellement? La réponse est oui. C'est exactement ce que ce livre nous enseigne, c'est que Dieu veut entrer en relation avec nous. Dieu et Jésus nous aiment passionnément. Et Dieu veut entrer en relation avec nous, peu importe ce que nous avons vécu dans le passé, peu importe les erreurs du passé, peu importe le péché avec lequel on se bat présentement, en autant qu'on ne désire pas chérir à la fois notre péché et Dieu, parce que si Dieu fait son entrée dans nos vies, le péché va sortir, ça ne sera pas trop long. Parce que le Dieu et le péché ne vont pas ensemble. Lorsque Dieu vient, Dieu nous donne un goût de sainteté. Ah oui, pendant un certain temps, on peut se battre avec le péché, mais à un moment donné, par contre, on n'est pas bien avec les deux. On ne peut pas chérir les deux à la fois. Dieu, comme j'ai dit depuis quelques dimanches, Dieu n'est pas appelé à être un assaisonnement à nos vies. Dieu est appelé à être le centre et le cœur même de nos vies. On a été créés pour être en relation avec Dieu. Je ne vais pas prendre plus de temps sur ce sujet, parce que je vais le toucher plus profondément, de façon plus profonde et plus approfondie dans les prochaines semaines. Mais je trouvais que c'était tellement important juste de mettre ça. Quand on dit « on est prêt pour plus », on n'est pas prêt à plus d'action, puis à courir, puis à faire des œuvres. On est prêt à plus d'intimité et de relation avec Dieu. C'est ce à quoi on aspire en cette année 2010-2011. Que lorsqu'on a choisi cette thématique avec l'équipe de leadership ministériel dans cette église, une équipe vraiment où on prie pour l'église, la direction, etc., on sentait prêt pour plus d'intimité avec Dieu. Prêt pour plus de sa révélation, qu'on puisse vraiment entendre sa voix davantage en 2010-2011. Donc, le premier élément clé est de croire, d'avoir la conviction que Dieu a vraiment le désir de se révéler à nous parce qu'il a un héritage spirituel à nous communiquer. Le deuxième élément est particulièrement cher à mon cœur. C'est une réalité qu'on trouve dans l'Église régulièrement. C'est un état d'esprit parfois dû à des déceptions du passé, des attentes non comblées ou simplement des fois par ignorance. Et permettez-moi de vous poser une question ce matin. Saviez-vous qu'on peut perdre notre héritage spirituel? Saviez-vous qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est possible de vivre notre vie sur terre sans jouir de tous les bénéfices que Christ nous a acquis à la croix? Avez-vous déjà réalisé cette possibilité-là de vivre votre vie de chrétien mais que finalement, vous allez arriver au ciel devant Jésus-Christ et vous allez constater et réaliser que vous n'avez qu'utilisé qu'une infime partie de ce qui était disponible pour votre, pendant votre vie sur terre. Comment peut-on perdre notre héritage spirituel sur cette terre? L'Ancien Testament est une histoire incroyable. Lorsque vous prenez la Bible et que vous lisez la première partie, c'est beaucoup de pages à lire. Et des fois, quand on lit l'Ancien Testament, on perd la vue d'ensemble. La vue d'ensemble est très claire et très simple. De la Genèse jusqu'à Malachie, on voit un Dieu qui cherche à entrer en relation avec son peuple, le peuple d'Israël. Dès le livre de la Genèse, on voit que Dieu choisit un homme du nom d'Abraham afin de créer un peuple au travers de lui, le peuple d'Israël. Et alors que le peuple d'Israël finalement se multiplie en Égypte, sort de l'Égypte, se retrouve à Canaan, tout ce qu'on voit dans les Écritures, on voit un Dieu constamment qui cherche à entrer en relation avec le peuple d'Israël, constamment. Mais en même temps, autant on voit le côté d'un Dieu qui veut bénir et son intention ultime était de bénir tellement Israël que Israël soit un peuple tellement béni qu'il bénisse les autres nations de la terre. Mais finalement, le peuple d'Israël a vraiment eu des moments, je pourrais dire, de désolation. Partout dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, on voit qu'alors que Dieu veut donner sa bénédiction, la déverser sur le peuple d'Israël et qu'il veut distribuer son héritage spirituel, on voit que le peuple d'Israël rejette Dieu constamment, désire vivre dans son péché, aime son péché, refuse d'écouter Dieu, vivent pour eux-mêmes. Le peuple de Dieu s'endurcit régulièrement et Dieu constamment revient pour essayer de le ramener, constamment pour dire « Viens vers moi, si seulement tu m'écoutais, tu aurais la vie, tu serais béni. Pourquoi passes-tu ton temps à me rejeter et à te détourner? » Et un jour, Dieu va faire une déclaration percutante, et c'est la déclaration que je veux vous amener ce matin. Mais un jour, alors que le Seigneur parle au prophète Jérémie, il va dire ceci au prophète Jérémie. Il va dire, écoute, je veux que tu dises ceci à mon peuple. Mon peuple est endurci, il a des idoles, il passe son temps à adorer les idoles d'Astarté et de si, ils font des choses incroyables. Pourquoi ne reviennent-ils pas vers moi? Et finalement, Dieu va dire ceci à son peuple, quasiment en conclusion, il va dire, « Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. » Tu vas perdre par ta faute tout ce que je voulais te donner parce que tu t'es éloigné de moi, tu t'es détourné de moi, tu ne veux rien savoir de moi, tu me rejettes constamment, tu te détournes. Un jour, Dieu a déclaré à son peuple d'Israël très clairement qu'il était sur le point de perdre son héritage spirituel par sa propre faute. Aviez-vous déjà réalisé qu'on peut perdre notre héritage par notre propre faute? La bonne nouvelle, par contre, c'est que le contraire est tout aussi vrai. C'est qu'on a également la possibilité de saisir notre héritage spirituel par notre propre faute. Hein? Il y a deux façons de le voir. Hein? Soit qu'on peut le perdre, soit qu'on peut le gagner. Et j'en arrive à mon deuxième élément clé. Comment saisir notre héritage spirituel en cette année 2010-2011? Nous disons que nous sommes prêts pour plus. Sommes-nous vraiment prêts pour plus? Si vous êtes vraiment prêt pour plus, ce principe, cet élément clé que je vais vous donner dans les prochaines secondes est très important. Écoutez bien ce que je vais vous partager. C'est une clé importante. Comment saisir notre héritage spirituel en cette année 2010-2011? En arrêtant de le perdre par prétention. Qu'est-ce que je veux dire par là? Retenez cette expression-là. Perdre par prétention. Est-ce qu'il vous arrive parfois de constater un décalage entre ce que vous lisez dans les Écritures et ce que vous expérimentez dans votre propre vie? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà lu les Évangiles et qu'ils ont, alors qu'ils lisent ça, ils se disent, « Ils sont donc bien chanceux, eux autres. Moi, je voudrais vivre ça, moi aussi. Pourquoi moi, je ne peux pas vivre ça? Pourquoi les disciples ont tous vécu ça, puis moi? » Je ne peux pas vivre ça. Quand on lit encore pire, je pense, c'est quand on lit le livre des Actes, dire, j'aurais aimé ça être là, vivre ça avec eux, n'est-ce pas? Est-ce que je suis seul à vivre, des fois, à ressentir ce décalage-là? OK, faites quelque chose, réagissez, grognez. Mais des fois, sérieusement, moi, je le constate, puis je dis, Seigneur, mais la question à se poser quand on le constate est celle-ci, et j'en arrive vraiment à mon point. Quand on réalise, on voit les Écritures, puis on voit notre vie, puis on se dit, il me semble qu'il y a tout un décalage. Ma question est celle-ci. L'acceptez-vous? Il y a des gens dans l'Église qui ont accepté de vivre une vie chrétienne médiocre. Ils ont accepté la vie chrétienne du statu quo. Quand on lit les Écritures, on voit un Dieu qui constamment, à chaque page, un Dieu qui se révèle personnellement. Puis nous, on arrive dans nos vies, puis Dieu ne semble pas nous parler, il ne se passe rien ou très peu de choses, puis on l'accepte. Je crois qu'on prétend qu'on peut perdre par prétention, et j'arrive à l'explication. On peut perdre notre précieux héritage spirituel, frères et sœurs. C'est-à-dire ce que Jésus nous a acquis à la croix en disant « tout est accompli », tout ce que ça pouvait inclure, ce « tout est accompli », on peut le perdre par deux moyens. Un, par ignorance, c'est-à-dire qu'on n'a aucune espèce d'idée qu'on a un héritage spirituel, donc on ne se l'accapare pas parce qu'on ne sait pas qu'on a un héritage spirituel. C'est comme si vous aviez quelqu'un dans votre famille qui est décédé et qu'il vous a légué une partie de son héritage, mais que vous ne le savez pas, que vous ne le réclamez pas. Il y a quelque chose, il y a un héritage spirituel qui vous est échu en partage, et c'est à vous d'aller le chercher et de dire, « Seigneur, moi je le veux. Tout ce que tu as pour moi, je le veux. Je ne veux pas que Christ soit mort pour rien sur la croix. Je veux vraiment aller chercher tout ce que tu as pour moi. » Donc, on peut perdre notre héritage spirituel par l'ignorance, ou je crois qu'on peut perdre notre héritage spirituel par mon deuxième point, c'est par la prétention. Et je vais l'expliquer. Le mot « prétendre » veut dire d'affirmer que l'on a quelque chose, qu'on possède quelque chose ou que l'on est quelqu'un. C'est d'affirmer qu'on prétend qu'on a quelque chose. Si c'est vrai, c'est super. Si c'est faux, il y a un danger. On peut perdre quelque chose en prétendant la vivre ou l'expérimenter alors qu'on n'est pas du tout en train de la vivre et de l'expérimenter. Exemple. Là, c'est trop théorique. Je sors de la théorie. Exemple. Des gens qui se disent en forme. Ah, moi, je suis en forme. Mais ces gens-là, OK, je n'ai pas aucun exemple, je n'ai pas personne dans ma tête présentement, OK, fait que je ne vise pas personne. OK? Il y a des gens qui disent, ah, moi, je suis en forme. Je suis vraiment en forme. Ou ils disent, ah, je ne suis pas pire. Pas pire. Mais dans leur lieu de travail, jamais ils prennent les escaliers. Ils prennent toujours l'ascenseur. Pourquoi? Parce que quand ils prennent les escaliers, ils montent deux étages, ils arrivent en haut du deuxième étage, puis. Mais ils sont en forme. Ils sont en forme. Écoute, ils pètent la santé. Ils prétendent être en santé et en bonne forme, mais ils ne le sont pas. Et tant que la personne va continuer à prétendre qu'elle est en santé et qu'elle n'admettra pas qu'elle n'est pas en santé, qu'elle n'est pas en forme, mais elle ne fera rien, elle ne mettra pas d'action pour dire « Bon, mais ce serait peut-être le temps pour moi de me mettre en forme. » N'est-ce pas? Comprenez? Un autre exemple qu'on peut vivre régulièrement dans le ministère en tant que pasteur, on rencontre un couple, on rencontre la femme est désespérée, elle veut que son mariage puisse être guéri, ça ne marche pas, la communication ne marche pas, et elle pleure, elle crie, elle prie, elle fait tout, elle veut vraiment que les choses changent. Et là, on prie avec la femme et tout ça, après ça, on rencontre le mari, « Ah non, tout va bien. » Là, lui, il prétend que tout va bien. Et tant qu'il va être dans ce mode de pensée-là que tout va bien, alors qu'il sait très bien que ce n'est pas le cas, et moi, même en tant que pasteur, on ne peut absolument rien faire avec un mari comme ça. Je suis désolé. Il y a juste Dieu qui peut faire quelque chose à ce moment-là. Mais tant que le mari prétend que ça va bien, mais que ça va, finalement, ça ne va pas bien, tant qu'il est dans ce mode de prétention, de prétendre à quelque chose qui n'existe pas, il n'y a aucun... je pourrais dire, aucune solution. Il n'y a rien qui va se passer dans ce mariage-là. Aussi plate que ça puisse sonner à vos oreilles, mais tant qu'on fait juste prétendre à quelque chose qui n'existe pas, il n'y a pas de solution. Je suis en forme alors qu'on ne l'est pas. Tant que tu vas dire que tu es en forme et que tu ne l'es pas, mais tu ne seras jamais en forme. Mais la journée que tu vas dire et que tu vas juste admettre, dire, OK, je ne suis vraiment pas en forme. Et je pourrais être beaucoup plus en forme que ça. À partir d'aujourd'hui, je vais monter des escaliers jusqu'à temps que je sois en forme. Et à chaque jour, je vais monter des escaliers. Maintenant, transposons ça dans la vie spirituelle. Il y a des gens parfois dans l'Église qui disent, dans l'Église avec un grand E, pas nécessairement à l'Église Vie Abondante, parce que je sais que l'Église Vie Abondante, ça ne vous concerne pas du tout. Mais il y a des gens qui disent, « Ah, j'ai une vie de prière super, vivante, édifiante, satisfaisante. » Souvent, la question que j'aurais le goût de vous poser, c'est, « Ah oui? » Es-tu vraiment satisfait? Es-tu vraiment si hot que ça, ta vie de prière? Peut-être que oui. Mais peut-être aussi que c'est juste quelqu'un qui prétend que, ah, juste pour le langage de l'Église, la culture dans l'Église, là, hein? On a toute une culture, un patois, puis on sait comment parler, on sait comment dire les choses. Ah, je lis ma Bible, ah, la Bible, la Bible, la Bible. Mais la réalité, là, c'est que des fois, on lit la Bible, là, puis ça ne nous parle pas en tout. Hein? À combien de reprises, moi, je suis venu devant le Seigneur, juste du vrai, hein? On a mis beaucoup sur le juste du vrai, mais on va dire un peu juste du vrai ce matin. Combien de fois j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, c'est-tu normal que j'ai l'impression d'être en train d'excaver une montagne complète pour trouver une pépite d'or? » OK, je suis le seul à vivre ça, c'est correct. Des fois, je me sens comme ça, que « Seigneur, t'es où? » Seigneur, je sais que t'es là, mais je ne sens pas ta présence, ça fait un bout de temps que je me sens que tu ne m'as pas parlé. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Parle-moi. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, sachons qu'on peut perdre notre héritage spirituel en prétendant le posséder pleinement, alors qu'on a à peine effleuré le sujet. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, tout ce que Christ m'a acquis à la croix, je le veux. Tout ce que Jésus, ce pourquoi Jésus est mort, je veux le connaître, je veux l'expérimenter et je veux le faire connaître à d'autres. Pour moi, le fait d'évangéliser sans avoir une relation intime avec Jésus, c'est ridicule. On va amener les gens à être religieux. Mais si on a vraiment une relation avec Jésus, puis qu'on parle des autres de notre relation avec Jésus, on va leur donner le goût d'entrer en relation avec Jésus. Et là, tout peut prendre place. Les miracles peuvent prendre place et tout ça. Retenez cette expression, perdre par prétention. Mais si on peut perdre par prétention, quelle est l'alternative? Il doit y avoir une alternative à ça. Dis-moi pas qu'on est obligé de perdre par prétention. Non! Il y a une alternative à ça. Et ça, c'est la bonne nouvelle. L'alternative est très simple. On a le choix de perdre par prétention ou de gagner par honnêteté. Et en cette année 2010-2011, j'aimerais vous encourager à cette aventure de la foi de gagner par honnêteté, d'être vrai avec Dieu. Juste du vrai, juste du vrai. Du vrai, de dire les choses telles qu'elles sont. J'ai un des dictons que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément avec les gens autour de moi, je dis tout le temps, tout se dit, mais tout dépend de la façon qu'on le dit. Je crois qu'avec Dieu, tout se dit, mais tout dépend de la façon qu'on dit au Seigneur. Gagner par honnêteté, par franchise, par authenticité, d'être vrai avec Dieu. Savez-vous que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent? C'est des termes théologiques, on va maintenant les mettre de côté, les termes théologiques, on va dire Dieu est présent partout, Dieu est conscient de tout ce qui se passe partout, et Dieu peut tout. C'est ça que ça veut dire. Si c'est la réalité, ça veut dire que tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez, toutes vos frustrations, vos colères, vos incompréhensions, Dieu les voit. Dieu en est conscient. Pourquoi ne pas prendre la liberté de gagner par honnêteté en venant vers lui et disant, « Seigneur, je vais être vrai avec toi en 2010-2011. Je vais être vrai. Et si j'ai l'impression, Seigneur, de parler à un mur, je vais te le dire. J'ai l'impression, Seigneur, de parler à un mur. » Seigneur, peux-tu juste te rendre plus réel à ma vie? Je veux être honnête envers toi, réel envers toi. Moi, à partir d'un certain point dans ma vie, vous m'avez entendu le dire à plusieurs reprises, je me suis dit que jamais plus je n'accepterais l'inacceptable. Jamais plus j'admettrais l'inadmissible. Jamais plus j'excuserais l'inexcusable. Jamais plus je tolérerais l'intolérable ou que je serais satisfait de l'insatisfaisant. J'ai dit, c'est fini, là. Moi, avec Dieu, Christ est mort sur la croix afin que je puisse avoir la vie et la vie en abondance. Et je ne demanderai pas tant que je ne l'aurai pas fait. Et je ne l'aurais pas expérimenté dans ma propre vie. En d'autres mots, j'ai décidé d'arrêter de jouer une game. J'ai décidé d'arrêter et j'ai décidé d'être vrai, de commencer à gagner par honnêteté. Et savez-vous quoi? Depuis ce moment-là que j'ai arrêté de prétendre, de perdre par prétention, que j'ai commencé à gagner par honnêteté, ça m'a amené à toutes sortes d'états d'esprit avec le Seigneur. Ça m'a poussé à prier, à chercher, à aller de l'avant, à demander pardon, à demander conseil, à lire, à étudier, à crier, à pleurer. J'ai passé par tout ça, mais j'ai grandi et j'ai gagné et j'ai avancé et j'ai eu des victoires. Je crois qu'il n'aurait jamais pris place si je n'avais pas arrêté de perdre par prétention. Dans ma vie spirituelle, je suis incapable maintenant d'accepter le statu quo, une vie chrétienne confortable. Pour moi, ça ne va pas ensemble, une vie chrétienne confortable. Par définition, une vie chrétienne, c'est une vie chrétienne qui fait en sorte qu'on est en mouvement, qu'on avance, qu'il se passe des changements. Et je vais plaider avec vous ce matin. Si ce n'est pas déjà fait, choisissez à partir d'aujourd'hui de commencer à gagner par honnêteté avec le Seigneur. On gagne toujours à être honnête, honnête envers soi-même et envers Dieu. On gagne toujours à être honnête dans un couple et de se dire les choses telles qu'elles sont. Au lieu de les envoyer, moi, une des blagues dans mon couple, c'est, vous savez, les femmes, vous êtes très, très fortes à parler entre les lignes et lire entre les lignes. Moi, je suis vraiment pas bon à ça. Et avec mon épouse, c'est très clair à ce niveau-là. Et je pense que Dieu aime pas lire entre les lignes. C'est-à-dire, je pense que Dieu aime vraiment qu'on puisse lui exprimer vraiment ce qu'il y a sur notre cœur et qu'on dise vraiment les choses telles qu'elles sont, de la bonne façon. Combien de fois, comme j'ai dit tantôt, et je veux le redire, que moi-même, dans ma propre vie, je vais juste être vrai avec vous aussi, dire au Seigneur, alors que je suis en train de lire ma Bible, « Seigneur, j'ai l'impression d'excaver, de déplacer une montagne pour trouver une pépite. Est-ce que tu peux juste simplement te révéler à moi? » Seigneur, je ne veux pas juste suivre un plan de lecture en un an pour dire, wow, j'ai lu ma Bible en un an. Ce que je veux, c'est te rencontrer. Ce que je veux, c'est te connaître. Ce que je veux, c'est d'entendre ta voix. Seigneur, fais juste te révéler à moi. Je t'en supplie, Seigneur, viens juste te révéler. Je sais que tu m'aimes. Je sais que partout dans les Écritures, tu m'as montré. Tu me montres et je lis que tu t'es révélé à des hommes et des femmes de façon incroyable. Seigneur, révèle-toi à moi aujourd'hui en 2010. Père, dans le nom de Jésus. Et là, j'entre dans ma lecture, et là, le Seigneur me parle. Des fois, c'est plus calme. Mais en même temps, Seigneur, à chaque fois que j'ai eu une parole de prophétie sur ma vie, c'était, viens me partager ton cœur. Viens et parle-moi de ce que tu vis. On gagne toujours à être honnête envers nous-mêmes et envers Dieu. On est prêt pour plus, frères et sœurs. Mais si on est prêt pour plus, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, je vous encourage, et peut-être vous allez sentir le besoin de revenir à la maison, et dans votre prochain temps de prière, dire, Seigneur, OK, à partir d'aujourd'hui, la réalité, là, c'est que je tenais de prétendre à quelque chose qui n'est pas. Et j'aimerais vraiment pouvoir rentrer en relation avec toi, que tu me parles davantage. J'aimerais de juste commencer à partager votre cœur au Seigneur et à pleurer s'il le faut et à venir devant le Seigneur de tout votre cœur. Laissez-moi vous proposer de comparer votre vie avec les Écritures et de continuer à chercher à vivre la vie abondante que Jésus parlait dans toutes ses formes. Juste du frais, juste du vrai. Connecte-toi à ton cœur ce matin, mon frère, ma sœur. Sois vrai, sois authentique. C'est le premier pas vers la vie abondante. Et c'est moi vous donner un exemple concret de comment gagner par honnêteté. J'ai lu cette citation d'une femme qui a marqué l'histoire de l'Église, une femme qui est quand même très reconnue, très connue pour son dévouement pour Dieu. C'était une femme qui était très pieuse et qui cherchait vraiment à servir Dieu de tout son cœur. Et on a eu une partie de ses écrits. Et dans ses écrits, des fois, elle écrivait ses prières. Et c'est une femme qui était engagée dans sa foi à temps plein, qui était vraiment quelqu'un, aujourd'hui, comme je dis, qui est reconnue comme étant quelqu'un de vraiment qui était religieux, c'est-à-dire vraiment attachée à Dieu, pieuse. Écoutez ce qu'elle priait, comment elle a gagné par honnêteté. Elle a dit ça un jour dans sa prière avec Dieu. « Ô Dieu, je ne t'aime pas. Je ne désire même pas t'aimer, mais je désirer t'aimer. » Ça, c'est de l'authenticité et de la franchise. C'est du vrai, là. « Ô Dieu, je ne t'aime pas. Je ne désire même pas t'aimer. Je n'ai pas un désir de t'aimer, mais j'ai un désir de désirer t'aimer, par contre. » Évidemment, cette prière, elle ne s'arrêtait pas là, ça a continué. C'est une femme qui était reconnue comme étant une femme très pieuse. Et peut-être qu'il y a des gens ce matin que vous vous identifiez à cette prière-là. Cette prière, cette déclaration a la qualité d'être honnête, d'être vrai, d'être authentique. C'est en quelque sorte même un cri. Et je vous garantis que Dieu n'est pas indifférent à ce genre de cri. « Seigneur, mon cœur n'est pas porté vers toi. Est-ce que tu peux juste venir à mon aide? » Seigneur, je veux pouvoir t'aimer. Je veux pouvoir t'aimer davantage. Je veux pouvoir être en amour avec toi par-dessus la tête. Être authentique. Juste du frais, juste du vrai. Tout notre héritage spirituel nous a été acquis à la croix, frères et sœurs. Il n'en tient juste qu'à nous d'aller de l'avant et d'exprimer au Seigneur notre désir de le découvrir, de le connaître. Tout ce que tu m'as acquis à la croix, Jésus, je veux le découvrir, je veux le connaître. Je veux le saisir, je veux me l'approprier. Je veux le vivre, je veux l'expérimenter. Et par la suite, je veux le faire connaître à d'autres. Notre grand défi en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, c'est qu'on aime ce qui est connu, ce qui est confortable, ce qui est on n'aime pas le changement. Mais la vie chrétienne est appelée à être une vie de changement et on avance. La marche, avez-vous déjà remarqué que la marche, les gens nous expliquent, les gens en physique nous disent que la marche est un état de déséquilibre. Saviez-vous ça? C'est un état de déséquilibre contrôlé. On se lance vers l'avant pour marcher. Et la vie chrétienne, c'est la même chose. On n'est pas appelé à être une vie chrétienne immobile et confortable. C'est confortable, l'immobilité. C'est sécurisant. Mais le fait d'avancer et de marcher, c'est un déséquilibre contrôlé. La vie chrétienne, c'est supposé être justement ça. Le Seigneur veut que nous puissions marcher, un déséquilibre contrôlé, un pas après l'autre. Si on me donne le choix entre être immobile ou être capable de marcher et de pouvoir explorer par mes propres moyens, j'aime mieux marcher et explorer par mes propres moyens. Et je parle ici, évidemment, d'un côté spirituel, de marcher, d'aller de l'avant, prêt pour plus. Est-ce qu'on est prêt pour plus ce matin? Oui, vraiment? Si c'est votre cas, je vous encourage, peut-être que si c'était votre cas présentement, arrêtez de perdre par prétention et de commencer à gagner par honnêteté. En terminant ce message, permettez-moi de vous poser quelques questions pour vous aider à gagner par honnêteté. Je vais vous poser 8 questions que je vais mettre à l'écran. Vous allez devoir vous évaluer vous-même de 1 à 10. Vous n'avez pas besoin de le prendre en note. Là, j'entends tous les papiers, flic, 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 flic. L'hebdo n'a jamais été aussi populaire, Christine. Je vais vous poser juste 8 questions. Et par la suite, on va rester à l'écoute de ce que Dieu veut faire parmi nous. Mais ces 8 questions-là vont vous forcer à vous positionner. C'est-à-dire que soit vous aurez tendance à prétendre, soit vous allez avoir tendance à vouloir gagner par honnêteté. Vous êtes prêts? Et là, il n'y a pas personne qui répond avec un 10, 1, OK? Juste entre vous et le Seigneur. Donc, ça va vous donner un petit peu, OK, Seigneur, où je me situe ce matin dans ces questions-là? Peut-être certaines questions se ressemblent, mais c'est correct. Faites juste une question à la fois, vous évaluez de gagner par honnêteté. Première question. Dans quelle mesure aimes-tu prier? Dans quelle mesure aimes-tu prier? Un étant comme vraiment pas, j'aime vraiment pas prier. La réalité, la vérité, là, c'est que j'aime pas prier. Et c'est d'ailleurs pour ça que je prie pas, parce que j'aime pas prier. Peut-être c'est ça. Peut-être que 10, c'est, écoute, je ne peux m'empêcher de prier. Des heures de prière sont un pur plaisir pour moi. Dans quelle mesure aimes-tu prier ce matin? Si tu prétends être à 10 alors que tu es à 3 en réalité, mais il n'y a plus de place à l'amélioration. Mais si tu dis non, vraiment, moi, je n'aime pas prier, je ne sais pas comment prier, la réalité, c'est que j'aimerais vraiment aller de l'avant à ce niveau-là, mais où te situes-tu à ce moment-là? Deuxième question. Dans quelle mesure réussis-tu à passer du temps seul avec Dieu quotidiennement? Je ne parle pas juste du temps quand on se déplace et qu'on parle à Dieu, mais vraiment du temps juste seul avec Dieu où on prend le temps de lui parler, de lui exprimer ce qu'on vit et de prendre le temps de l'écouter également. Dans quelle mesure réussis-tu à passer du temps seul avec Dieu quotidiennement? Un étant, je ne passe jamais de temps tout seul avec Dieu chaque jour. Et 10 comme étant à chaque jour, je ne manque pas une seule journée, c'est un temps et je réussis très bien à prendre du temps avec Dieu chaque jour. Dans quelle mesure réussis-tu à passer du temps seul avec Dieu quotidiennement? Autre question. Comment évalues-tu ta passion pour Dieu ces temps-ci? Est-ce qu'il y a une passion dans ton cœur? Est-ce qu'il y a un feu qui est là, vraiment un feu brûlant? Est-ce que si, dans ce cas-là, tu serais un 10? Ou est-ce que non, je me sens vraiment loin de Dieu? Il n'y a pas rien, ça ne m'attire pas. Je me sens là, je suis fatigué de ça. Dans ce cas-là, ce serait peut-être plus vers le 3, 4, le 1, le 2, peu importe. Une autre question. Comment évalues-tu la passion de Dieu à ton égard? Oh, là, dans un autre sens. Comment évalues-tu la passion de Dieu à ton égard? Et comment ressens-tu la passion de Dieu à ton égard? Prenez-le comme ça. Pas ce que la Bible déclare, ce que vous savez avec votre tête, mais comment vous sentez les choses à l'intérieur? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que Dieu vous aime de façon passionnée ou non? Ou est-ce que vous avez l'impression que Dieu fait du favoritisme et que vous n'êtes pas parmi ses favoris? Autre question. En toute honnêteté, quel est selon toi le niveau d'amour que Dieu te porte malgré le fait qu'il connaît tout ce qui se passe dans ta vie présentement. Quel est le niveau d'amour que Dieu te porte, malgré qu'il connaît tout ce qui se passe dans ta vie, tes pensées, tes combats, peut-être le péché? Autre question. Comment évalues-tu le degré d'intimité que tu entretiens avec Dieu? Comment l'évalues-tu? À quel point tes pensées, ton cœur, ta vie et tes relations sont-ils purs, saints, que tu vis une vie de sainteté? Et la question, comme j'ai dit, peut-être que quelques questions peuvent paraître redondantes, mais en même temps, je crois que c'est important de pouvoir juste revenir à quelques reprises. Dans quelle mesure vis-tu une relation, une communion, une relation réelle avec Dieu? Est-ce que c'est un 10? Oui, tout à fait, c'est incroyable. Dieu me parle à n'importe quand, à tout instant. C'est incroyable. Vision, rêve, songe, tellement que je ne suis plus capable de travailler, ça vient de partout, ça me déborde des oreilles. Ou est-ce que c'est un, dire, ma relation avec Dieu? Tu veux vraiment la vraie réponse, pasteur Benoît? Peut-être que la réponse, c'est, je n'ai pas l'impression d'avoir même une idée de ce que c'est vraiment une relation avec Dieu. Ça fait des années que je viens à l'Église, mais une relation avec Dieu, que Dieu me parle à moi, peut-être que vous dites, non, moi je suis à un, à deux. Ah, peut-être que Dieu m'a parlé à quelques reprises, j'ai senti des petites affaires par-ci, par-là. Mais voyez-vous, ça c'est un exemple, frère et sœur, avec des questions comme ça, d'être vrai. Une occasion d'être vrai ou de prétendre. Et la question après ça, c'est de dire, OK, avec les réponses que j'ai données à ces questions-là, est-ce que je les accepte ou je ne les accepte pas? Ça, c'est la grande question. Dire, est-ce que je vais continuer peut-être, si c'est votre cas, de jouer, de prétendre que j'ai une vie spirituelle extraordinaire, ou si je vais commencer non plutôt à gagner par honnêteté, de dire, Seigneur, j'ai tellement faim et soif de plus de toi. Seigneur, quelque part même, peut-être je suis insatisfait. Seigneur, je désire plus. Cette thématique vient me chercher. Je désire, je suis prêt pour plus. Je veux vraiment, je ne comprends pas tout, mais je veux juste m'approcher de toi. Je prie que tu puisses te rendre encore plus réel à ma vie. Seigneur, apprends-moi à entendre ta voix. Jésus disait, mes brebis entendent ma voix. Seigneur, c'est peut-être que tu vas dire ce matin, je n'entends pas ta voix, mais je désire, si c'est vraiment pour moi ce matin, que tu m'aimes vraiment, que tu veux te révéler à moi, je veux entendre ta voix. Mais dans ce cas-là, dites-le au Seigneur. Dites-le au Seigneur. Puis prenez le temps de prier. Vous savez que ça passe par la prière. Vous savez que c'est en prenant du temps avec le Seigneur, juste d'être honnête avec lui, de vraiment vous mettre dans sa présence, d'être à l'écoute de son esprit. Et il va se révéler à vous. Tous ceux et celles qui se sont présentés à Jésus, Jésus les a accueillis les bras grands ouverts. Et c'est encore la même chose en 2010. Jésus veut vous accueillir les bras grands ouverts. La question est de savoir, c'est est-ce que vous êtes prêts à aller plus loin avec lui? Amen. Est-ce qu'on peut pencher nos têtes à ce moment-ci, fermer nos yeux? Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur, devant même mes frères et mes sœurs, je l'ai partagé un peu la semaine dernière dans mon message, que chaque fois que tu m'as parlé, ça a bouleversé ma vie. À chaque fois que tu t'es révélé à moi, ça l'a bouleversé soit ma vie ou quand tu me donnais une parole pour quelqu'un d'autre, ça l'a bouleversé la vie de la personne à qui tu adressais cette parole-là. Chaque fois que tu t'es révélé à moi, tu m'as donné le goût de te connaître davantage, de pouvoir vraiment vivre cette relation davantage, de plus en plus. Et ce matin, j'aimerais te dire, Seigneur, en toute franchise et honnêteté, que je désire entrer davantage en relation avec toi, de pouvoir comprendre encore mieux la dynamique, comment être à l'écoute de ta voix. J'aimerais même, Seigneur, apprendre à être encore plus honnête envers toi, Seigneur, que tu, sachant que tu vois tout, que tu sais tout, que tu connais tout, que je peux venir devant toi, Seigneur, que tous les sujets possibles, imaginables, peuvent être, Seigneur, amenés devant toi, parce que tu les vois et ça fait partie de ma vie. Seigneur, merci pour le fait que tu es un Dieu qui nous accueille tel qu'on est, avec nos combats, avec nos difficultés, avec nos incompréhensions. Et ce matin, j'aimerais simplement te prier pour mes frères, mes sœurs, pour ceux et celles dans ce lieu peut-être qui ne te connaissent pas encore personnellement. Je prie afin que tu puisses vraiment, s'ils sont déjà, Seigneur, des gens qui ont appris ce principe clé-là, cet élément clé d'être juste honnête et vrai, Seigneur, je prie que tu puisses continuer à les bénir, qu'ils puissent continuer à progresser dans leur marche avec toi. Mais tous ceux et celles qui, ce matin, vivent une vie de prétention, qui prétendent à des choses qui ne sont pas, je prie, Seigneur, que tu puisses leur donner la conviction ce matin d'arrêter de vivre dans ce mode-là. Parce qu'il n'y a rien qui va prendre place tant et aussi longtemps qu'on va continuer à accepter de vivre dans cette attitude-là. Seigneur, tu ne nous as jamais appelés à vivre, Seigneur, et à prétendre, mais tu nous as appelés vraiment à expérimenter et à vivre pour de vrai dans nos vies une relation avec toi. Seigneur, cette année 2010-2011, nous voulons te dire que nous avons faim et soif de te connaître. Connaître le Fils de Dieu, le Dieu créateur de l'univers. On veut te connaître. Révèle-toi à nous. On veut, Seigneur, mettre toutes nos actions, Seigneur, pour vraiment être à l'écoute de ta voix. Oui, prendre le temps de prier avec toi chaque jour, Seigneur. On veut vraiment être là et être honnête et te parler comme à un ami, comme si tu étais présent dans la pièce où on prie. Parce que tu es là. Parce que Jésus nous a enseigné d'aller dans notre lieu secret, dans notre chambre et de fermer la porte et notre Père céleste voit dans le lieu secret. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Et on veut, Seigneur, je pourrais dire, jouir et profiter, Seigneur, de cette réalité-là que tu es un Dieu accessible, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne dans ce lieu qui ne te connaît pas. Je prie qu'avec ce qui a été entendu ce matin, ils aient, Seigneur, le courage de te prier et de vraiment se mettre devant toi en ce moment même ou même à la maison, peut-être cet après-midi ou ce soir, et de dire, Dieu, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. Je veux vraiment apprendre à te connaître. Si c'est vrai que je peux te connaître, je veux pouvoir te connaître et entrer en relation avec toi. Je prie que tu puisses te révéler, Père, à mes frères et à mes sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Ô Jésus, béni soit ton nom. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble pendant quelques instants. Alléluia. 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 Arabasita. J'aimerais qu'on puisse prier pour les besoins. J'aimerais inviter l'équipe de louange à venir nous rejoindre. J'aimerais qu'on puisse vraiment prier pour les besoins, que soit vous avez besoin qu'on prie pour vous pour la guérison, vous voulez qu'on prie pour vous pour la délivrance, vous voulez qu'on prie pour vous pour par rapport à la thématique de ce matin, je l'invite à avancer. On va prier pour les besoins dans quelques instants. Pour ceux et celles qui ont été interpellés par le message, je prie vraiment que vous preniez juste ces quelques instants, ces quelques minutes qu'on va prendre pour prier pour les besoins, juste pour vous mettre devant Dieu et de parler au Seigneur. Il est là présent dans ce lieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Faites juste lui parler là où vous êtes. Dites, Seigneur, moi, je veux vraiment davantage de toi. Il y a tel domaine de ma vie que je sens que tu veux faire une œuvre dans ma vie. Viens faire, Seigneur. Viens me révéler ta pensée sur ce domaine-là. Tout simplement, vous adressez au Seigneur là où vous êtes et on va prier pour les besoins. Vous avez besoin de guérison de cœur, guérison de corps, guérison vraiment. Donnez votre cœur à Jésus. Vous voudriez qu'on prie avec vous. Venez en avant ici. Une équipe va être là pour vous accueillir. J'inviterai le LM et leur conjoint et toute l'équipe de leadership qui était là lundi de la journée de la fête du travail. Tout simplement aussi à venir, si vous avez à cœur, de venir prier avec les gens qui vont s'avancer dans les prochains instants. Donc, on va juste chanter un chant. Est-ce qu'on peut... vous aviez un chant en particulier ou...